Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1. Alors comme chaque jour, on va partager avec vous des tas d'astuces, des conseils vraiment feel good pour rendre votre vie plus facile. Alors justement Julia, un aperçu du programme de ce jeudi.
Alors on va commencer par le programme avec les bienfaiteurs d'Europe 1. Ils seront avec nous en studio à partir de 11h45. Et aujourd'hui, le binôme sera composé de Jérémy Combe, notre monsieur bonne manière. Il va nous donner quelques conseils pour agir face à ces gens, vous savez, qui nous agacent au quotidien. Alors comment savoir les rabrouer, mais avec chic et élégance? Ce sera la leçon de savoir-vivre du jour. Et puis Philippine Darblay, notre spécialiste art de vivre, sera aussi des nôtres tout à l'heure. Et elle a prévu de nous faire découvrir une tendance qu'on voit de plus en plus dans nos assiettes, le charbon végétal. Alors qu'est-ce que ça apporte comme bienfait pour nos papilles? On fera le point avec elle.
Bon, sinon avant ces chroniques très tentantes dès le début de l'émission, ça va piquer, ça va twister dans ce studio puisqu'on va mettre un coup de projecteur sur le monde savoureux des épices. Poivre, gingembre, safran, cannelle, les épices colorent et parfument notre cuisine au quotidien. Mais savez-vous bien les utiliser? On va faire le point sur ces ingrédients magiques, sur leur conservation, leur utilisation ou encore les bonnes associations à faire. Vous saurez tout sur leur consommation mais aussi sur leur histoire grâce à notre invitée Marie-Lou Lisée. Elle est chercheuse d'épices et cofondatrice de la maison Nomi. On va l'entendre dans quelques instants, juste après le point de vue toujours aromatisé comme il faut de Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Et oui, c'est bien quand on est humoriste et qu'on a des sujets comme ça. Ouais, les épices. Alors je ne vais pas vous faire rire aujourd'hui, je vais vous faire voyager et je vais essayer de rendre humaine avant de commencer les épices. Alors l'histoire des épices, elle est pleine de saveurs, évidemment, d'odeurs. Elle va nous faire vibrer puisqu'elle prend son sens au début presque de l'humanité puisque depuis des siècles, on utilise les épices pour donner du goût, pour conserver les aliments, on le verra, et même pour soigner des maladies. Mais est-ce que vous saviez que les épices ont également une vie sociale très très animée? Mais oui, c'est vrai, les épices ont leur propre communauté, leurs propres codes sociaux. Par exemple, prenons le poivre noir. Le poivre noir, ce serait considéré comme le bad boy des épices. Il est piquant, il est un peu arrogant, il les met au centre de l'attention, il est là partout. Le cumin, quant à lui, il a un côté plutôt dragueur. Il adore flirter avec les autres épices, leur faire des avances audacieuses. Un petit peu libertin, le cumin. Il va à droite, il va à gauche, il se mélange. Les autres épices le trouvent souvent trop intense, tu vois. Tu viens en soirée? Non, je viens pas forcément. Oh, on était avec cumin, c'était complètement dingue. Et que dire de la cannelle? Alors la cannelle, la reine des épices, la plus populaire et la plus admirée. Les autres épices la voient comme une diva, un petit peu. C'est la Maria Carré des épices, toujours impeccablement habillée, prête à briller sous les projecteurs. Mais attention, si vous la prenez de haut, vous pouvez vous mordre. La cannelle peut être faute. Le curcuma, son nom est difficile à prononcer, plutôt calme, réfléchi, mais aussi pleine d'énergie et passionnée. C'est la cousine sympa, vous savez, celle qui organise les événements au mariage, qui arrive, qui distribue les textes en disant « Voilà, on a écrit une petite chanson. Oh, curcuma, trop bien !» Le gingembre, fort, dynamique, équilibré, réfléchi. C'est un petit peu le papa de la famille ou la maman, mais très très calme, posé, qui regarde, le grand-père même, qui regarde. Oui, très bien. Et puis le safran raffinant, raffiné, élégant et aussi mystérieux et séduisant. C'est un petit peu l'anglais de la famille qui arrive, il est un petit peu lointain, il nous regarde un petit peu de haut, le safran. Il sait qu'il est un petit peu plus blindé que les autres, mais il ne se la raconte pas non plus. C'est toujours bien, c'est bien quand il vient nous rendre visite de dire « Oh, mais il y avait safran ». C'est vrai, il est venu? Ouais, il est venu pour mon anniversaire, c'est très classe. Donc voilà. En fin de compte, les épices, c'est bien plus qu'un simple moyen de donner du goût à des plats, c'est des vraies personnalités unique, avec une vie sociale animée. J'espère vous avoir aidé. Je vous laisse rencard avec gingembre.
Merci Clément Lanoux. Allez, maintenant, on va donner la parole à notre vrai spécialiste du jour. C'est vous, Marie-Lou Lisée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse d'épices et cofondatrice de la maison Nomi. Alors, c'est une société avec une vision très moderne du monde des épices que vous avez créée il y a 6 ans. En 2 mois, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer un peu la spécificité de Nomi et de vos produits donc?
Avec plaisir. En fait, nous, on a créé Nomi avec mon mari. Sous format familial, l'idée c'était vraiment d'intégrer les épices au quotidien dans notre cuisine. C'était le constat qu'on se faisait quand on a commencé, bien avant, quand ma mère, elle, était aussi dans le métier. Donc des épices de petits producteurs, bien sourcées, des mélanges faciles à utiliser. Donc décomplexer l'usage des épices.
Dites-moi, je crois que vous avez environ 200 épices différentes, mais il en existe beaucoup plus que ça dans le monde. Il y a combien d'épices à découvrir?
Des milliers, en fait, si on compte les épices, mais aussi les mélanges. Ouais. Donc, qui proposent une déclinaison infinie d'associations, les sels, les poivres, des milliers. Après, sur les épices pures, on va dire plusieurs centaines. Ouais.
Mmh. Ces épices, vous allez les chercher parfois aux quatre coins de la planète. Vous allez les chercher où, par exemple, donnez-nous un exemple, je ne sais pas, avec les petites dernières qui sont rentrées chez vous.
Aux dernières trouvailles.
Ouais. Ah, bah écoutez, moi, je reviens de Grèce. J'étais encore hier en Grèce. L'idée, c'était d'aller sourcer des herbes et des fruits en poudre. Donc ça va être des petites choses que je vais présenter d'ici quelques mois. Mais on essaye d'aller une fois, deux fois par an rencontrer nos producteurs.
C'est difficile comme métier.
J'étais en train de me dire, mais moi j'ai envie de faire ça.
Épicière,
chercheuse d'épices.
Oui. Je vous prends avec.
Avec grand plaisir. J'ai l'impression que quand on évoque les épices, il y a quand même un côté très oriental, très asiatique. Mais est-ce qu'il existe quand même des épices qui poussent, enfin qu'on produit en France? Et si oui, lesquelles par exemple?
Alors oui, il existe des épices en France, mais on n'a quand même pas le même climat qu'en Inde, qu'en Asie, au Moyen-Orient. Et puis, on n'est pas sur les mêmes volumes de production. Donc oui, il existe des épices. Ça se démocratise aussi du côté des producteurs. Donc fenouil, graines d'aneth, graines de coriandre, du
plutôt
cargis.
Dans le sud de la France.
Plutôt dans le sud,
j'imagine, pour avoir un climat plus clément. Ouais. Un peu d'histoire peut-être. Alors Clément a un tout petit peu amorcé les choses, mais est-ce qu'on sait quand est-ce que justement ces épices, pas forcément les françaises dont on vient parler, mais les épices qui viennent peut-être plutôt d'Orient ou d'Asie, quand est-ce qu'elles sont arrivées chez nous en Occident justement?
Oui, les épices viennent d'Asie. Elles sont arrivées en fait pendant les échanges commerciaux de la route de la soie. Mm-hmm. Et puis après, au fur et à mesure, elles sont démocratisées au Moyen Âge. Et puis après, vraiment développé d'autant plus avec les grandes croisades où là on a pu explorer plus le monde.
Et donc on s'est échangé les épices quoi.
On a été chercher là-bas puis les ramener
ici, c'est pas mal. Et je crois d'ailleurs qu'à l'époque on consommait beaucoup plus qu'aujourd'hui d'épices dans notre cuisine. Ils mangeaient quoi comme épices à l'époque?
Alors à l'époque, par exemple au Moyen-Âge, ça allait être de la cannelle, du girofle, du gingembre. Ça allait être des épices qui allaient être aussi un marqueur de bonnes finances. Mmh. Donc c'était des personnes, des familles assez aisées qui cuisinaient les épices, qui invitaient pour faire découvrir les épices. Donc on pouvait
Ça coûtait cher de les faire venir du bout du monde, j'imagine,
ça
à l'époque.
Ça coûtait cher, mais c'était une consommation qui était en kilos par repas.
Oh, non, c'est pas vrai. On est des tout petits joueurs aujourd'hui.
Mais ça devait couvrir complètement l'odeur des mets, non?
Alors, parfois, c'était utile comme ça.
La viande était tellement faisandée qu'il fallait mettre beaucoup d'épices.
Pour les viandes un peu faisandées, les épices.
Mais cela dit, Julia, vous qui cuisinez très mal, si vous mettez beaucoup d'épices, les gens ont l'impression que vous êtes une bonne cuisinière.
Mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, mais c'est bizarre. Est-ce que je pourrais, par exemple, mettre des épices dans des pâtes? On n'y pense pas, vous mettez des épices, vous?
Moi, j'adore ça.
Mais on peut mettre quoi dans des pâtes, par exemple?
Alors, par exemple, moi, en ce moment, je fais beaucoup de pâtes au za'atar, qui est un star de la cuisine levantine. Donc, on va faire des tagliatelles, des linguinés avec citron, za'atar, parmesan.
Et c'est bon, ça?
C'est super bon.
On va goûter.
Simple à faire. Là, pour le coup, c'est très simple.
C'est très simple, vous êtes sûr, hein?
Promis.
Okay. On reviendra sur la recette tout à l'heure. Merci, Marie-Lou. On ne fait que commencer cet entretien. On va se balader un peu ce matin dans le monde infini et savoureux des épices. D'ailleurs, auditeurs d'Europe 1, savez-vous les manier quand vous cuisinez? Ou bien vous contentez-vous peut-être des 3-4 qui traînent toujours dans vos placards? Bon, en tout cas, nous, on va ouvrir sur Europe 1 le champ des possibles culinaires et des épices. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Votre magazine Feel Good, bien fait pour vous, revient dans un instant sur Europe 1. On apprend comment bien utiliser mais aussi conserver les épices aujourd'hui. On va y revenir très vite, juste après avoir écouté un titre d'un groupe mythique. Ce sont les Rolling Stones avec Start Me Up sur Europe 1. C'était les Rolling Stones sur Europe 1 avec leur titre Start Me Up.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et notre émission Bien fait pour vous, dans laquelle on apprend enfin, pour certains on découvre,
le maniement, pour vous, par exemple,
les épices. Effectivement, pour moi les épices c'est le sel et le poivre, c'est déjà beaucoup. Alors pour nous guider dans cet apprentissage, nous allons faire appel à une experte, et c'est vous, Marie-Lou Lisée. Je rappelle que vous êtes chercheuse d'épices et cofondatrice de la maison Nomi. Alors Marie-Lou, on va commencer par apprendre à bien choisir ces épices qui ravissent nos papilles. Déjà, à quoi est-ce qu'il faut se fier quand on va acheter son curcuma ou son paprika, par exemple? Est-ce que, une couleur bien vive, c'est un gage de qualité, par exemple?
Alors oui, la couleur, c'est clairement un gage de qualité pour le paprika, pour le curcuma. Le paprika, par exemple, est très fragile, donc s'il prend trop vite la lumière, il va se ternir. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de faire confiance à la personne qui nous vend les épices. Donc d'essayer de ne pas les acheter à l'air libre, qui prennent la poussière, ou plutôt dans des pots. Le problème, c'est que l'air, c'est vraiment l'ennemi
absolu. C'est dommage, parce que parfois, on voit des étals avec
plein de... C'est très beau.
Et c'est beau, mais il ne faut pas les acheter.
D'accord. Moi, personnellement, je n'irais pas. Parce que l'épice, elle prend l'humidité, la lumière, la poussière. Enfin, c'est tous les ennemis des épices. Donc, plutôt d'essayer de faire confiance à la personne qui nous vend les épices et à la couleur.
J'ai une petite question, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Mais en fait, c'est quoi une épice ? Parce qu'est-ce que le sel, par exemple, c'est une épice ? Est-ce que, je vous disais tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, je crois, mais j'ai dit, moi, je mets des herbes de Provence, mais c'est des herbes. Est-ce que c'est des épices ? Alors, c'est quoi une épice ?
C'est l'univers du sec. En fait. Donc après,
quand on a de
le début, la fin,
un saucisson, c'est une épice s'il est sec.
Non, je alors pas on va dire une forme de végétal sèche, des fleurs, des fruits.
Donc on peut dire le persil séché, par exemple, c'est des épices.
Et le sel et le poivre sont des épices, donc vous consommez des épices.
Vous aviez raison, Julia.
Vous voyez, j'ai une question qui est arrivée via Facebook de Laura qui habite Bourges et qui nous demande s'il faut plutôt acheter des épices moulues ou entières, si ça change quelque chose au goût notamment.
Bah les deux, selon, en fait, encore une fois, chez qui vous l'achetez. Moi, je trouve que quand on achète entière, c'est intéressant de le moudre minute ou alors de le torréfier.
Mais il faut avoir les ustensiles. C'est quoi comme ustensile ?
Alors, soit on a un joli mortier, alors surtout avec de l'aspérité au fond, pas les mortiers en marbre qui sont spécialisés pour les pestos, mais plutôt un mortier avec aspérité ou un petit moulin café.
Et donc là, vous parliez par exemple des poivres, j'imagine. Vous n'aimez pas beaucoup le poivre tout moulu, déjà d'office. Vous préférez le poivre en grain dans des appareils dans lesquels on va le moudre sur le plat directement. Il a plus de goût, c'est ça, il va être plus puissant.
Oui.
Alors, évidemment. Une question que tous, je pense, on s'est déjà posée. À quel moment on ajoute les épices dans notre plat ? Peut-être que ça dépend aussi des plats, mais est-ce que c'est avant, pendant, après la cuisson ? On dit souvent que le poivre, c'est à la dernière minute sur le plat avant de le servir. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être pas pour tout, d'ailleurs.
Moi, je trouve que c'est une question... Je trouve que c'est dommage de mettre des règles. L'idée, c'est plutôt notre goût à chacun, comment on va apprécier l'épice. C'est intéressant d'infuser les épices entières en début de préparation, parce qu'elles vont pouvoir libérer toute leur saveur. Mais un poivre moulu, dernière minute sur un plat, c'est exceptionnel. Mais quand aux États-Unis, il y a des rubs de viande qui vont être cuits très longtemps, enfin des viandes en cuisson lente qui vont être cuites très longtemps, c'est des rubs de poivre. Donc, ça va
à
être
vous
une
de
question.
Tester, quoi, finalement, en cuisine.
Il faut vraiment
aussi,
expérimenter, faire des tentatives.
Mais vous parlez de poivre, on devrait plutôt dire des poivres. Je crois qu'il en existe plusieurs variétés. Oui, j'écoute l'émission, parfois, même en l'animant. Et expliquez-nous ces différents types de poivres.
Oui, il y a trois variétés de poivres. Il y a les poivres ronds, les plus communs qu'on connaît, les poivres à queue, notamment le Voiti périphérique qui vient
de
Madagascar.
Là, j'en ai un de chez vous. Je vois qu'il y a des petites queues sur certains grains de poivre. C'est quoi les petites queues là ?
C'est le Voiti périphérique. C'est le poivre sauvage de Madagascar.
Qui n'a pas un goût de poivre, qui ne pique pas en fait, c'est ça ?
Alors, qui est plus floral, qui est plus sur des notes de sous-bois.
Et le troisième poivre, c'est qui ?
Poivre long.
Le poivre
long. C'est un agglomérat de petits grains de poivre. C'est des grappes naines en fait.
Et là, mélange des trois poivres, c'est bien ça de mélanger tous les poivres ?
Moi, j'aime bien, mais après, c'est une question de goût. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces trois poivres vont s'équilibrer. On a deux poivres de compote, du noir et du rouge. Ah, le rouge est plus fruité, le noir est plus vert et légèrement chaud. Et on va avoir ce poivre sauvage de Madagascar qui est plus herbacé, plus floral.
Alors, dans votre livre, vous parlez aussi des faux poivres qu'on trouve sur le marché. Hein. Comment on les reconnaît ? C'est quoi un faux poivre ? Est-ce que ce sont des produits qu'il faut éviter ?
Non, alors, un faux poivre, c'est en fait, c'est une baie. Ça va ressembler au poivre d'apparence.
J'ai toujours du 5B là, d'une marque très connue en supermarché.
Nous, on fait un très beau 5B. Mais il n'y a pas que des baies d'ailleurs dedans, il y a des poivres. Une baie, c'est un fruit en fait. C'est un faux poivre.
Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, donc faux poivre, juste parce que ce n'est pas du poivre.
C'est juste que ce n'est pas du tout le même produit, mais ça ressemble.
Tout à l'heure, on parlait de la quantité d'épices à mettre dans ces plats. Et Mélanie, je sais, elle ne m'a pas encore invitée à dîner, mais apparemment, elle en met toujours plus que sur la recette. Est-ce que c'est embêtant ? Ça, c'est parce qu'elle cuisine mal pour cacher le goût ? Ou est-ce que c'est plutôt, on peut se laisser aller à être...
C'est qu'elle aime ça et qu'elle a envie
Dans la famille, on mange très épicé. On aime quand ça a du goût.
Nous, on donne un repère, mais après, le repère, il s'adapte sur chacun et ce qu'on aime. Donc,
on ne peut jamais mettre trop d'épices. Ça existe, ça, ou pas ?
Ça va dépendre. Si vous mettez trop de piment et que vous n'aimez pas le piment, ça peut chauffer. Mais
trop de cannelle,
le piment, c'est tellement...
Bon. Ah, trop de cannelle, ça peut être dégueu, non ?
Ah, mais il y a des gens qui n'aiment pas la cannelle,
ça
effectivement.
Peut être,
mais
ça peut être délicieux,
mais
ça dépend en fait de votre goût. Moi, j'adore le piment. Je mets plein de piment, par exemple. Mais par exemple, le piment, c'est rien dans l'univers des épices. Il y a plein d'autres épices qui ne sont pas pimentées.
Et le piment, d'ailleurs, je reviens sur le piment d'Espelette. C'est un exemple, j'en ai toujours chez moi. J'ai remarqué que très vite, il change de couleur, en fait. Ça veut dire qu'il est plus bon quand il devient orange fadasse.
C'est qu'il est fragile, en fait. C'est le paprika, le piment d'Espelette. Ce sont des piments et donc ils vont être très fragiles à la lumière.
Donc à conserver à l'ombre. Et combien de temps à peu près en général on le garde, un bon piment d'Espelette, on va dire ?
Moi, je dirais, bon, c'est 2 ans pour les poudres, 3 ans pour les graines. Nous, c'est comme ça chez Nomi qu'on l'assimile. Mais si vraiment on veut l'apprécier de la meilleure des manières, je dirais 1 an pour les poudres.
D'accord.
Et 1 an pour les graines.
On tarde pas trop. Marie-Lou, on a une autre question d'un auditeur d'Europe 1. Nicolas, qui a écrit sur Instagram, il dit « Je vois beaucoup de gens sur Instagram qui cuisinent avec du sumac. » Mélanie en parlait tout à l'heure, je crois. Ça a l'air hyper à la mode. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, s'il vous plaît, avec quoi on peut l'associer ?
Alors, le sumac, c'est une petite baie légèrement vinaigrée, citronnée. C'est une baie qu'on trouve dans le zaatar, hein, qui est une des composantes phares du mélange zaatar, dont on parle beaucoup en ce moment. Seul aussi, c'est très bon. Légèrement citronné, vinaigré, ça va apporter en fait ces notes-là que vous allez chercher dans un plat sans le jus d'un citron, par exemple, ou sans du vinaigre. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant en topping, donc d'un hummus, d'une petite sauce yaourt. Ouais, c'est délicieux, mais sinon, sur une base marinade, on en parlait tout à l'heure.
C'est ce que vous avez entre les mains, c'est du zaatar qui contient du sumac.
C'est
attention, Julien, c'est pas sumac tout seul.
Sumac est trop, et too much sumac est trop. Vous... Je vais penser à ça, je suis désolée.
Pour les fruits et légumes, on sait qu'il y a des saisons. Est-ce que pour les épices aussi, il y a des saisons ou pas du tout ?
Bah, au moment où on les récolte, oui, il y a une saison, mais après, une fois séchée, il n'y a pas de saison. Et enfin, c'est un très bon allié de saisons un peu tristes, comme l'hiver, hein, quand on en a marre du chou et de la carotte, les épices sont là.
Ça doit être un très bon allié aussi pour quand on est un peu au régime, non ? Ça doit relever un peu les plats. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors c'est effectivement, ça apporte, ça va permettre d'être en papille, paprika fumé notamment, qui va avoir des notes un petit peu de chorizo. C'est une bonne alternative.
C'est gourmand,
la cannelle.
Ouais, c'est gourmand.
Moi, j'aime bien quand il y a du chorizo aussi.
Ah, oui. Merci à vous, Marie-Lou. On va continuer juste après cet apprentissage pour bien manier les épices dans nos petits plats. Et on va voir aussi que pour bien les conserver, c'est tout un art. Donc le petit pot de curcuma au fond de votre placard, périmé depuis 2018, à mon avis, il faut lui dire bye bye. Mais pour en savoir plus, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez.
On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h31 et nous sommes toujours avec Marie-Lou Lisée, chercheuse d'épices et cofondatrice de la maison Nomi. Alors Marie-Lou, on va passer à la pratique vraiment maintenant. Vous poussez, je crois, les amateurs de cuisine à abuser des épices et vous dites même que les épices sont à la cuisine, ce que les adjectifs sont aux mots. Ça apporte quoi ? La chair, l'humeur ? Expliquez-nous votre vision.
Ouais, l'idée, c'est de se dire au quotidien, on va pouvoir mettre des épices, twister un œuf, des pâtes.
Même faire des trucs simples. Quoi,
ouais, moi, je suis une cuisinière de 30 minutes. Quoi. Je ne vais pas plus loin. Donc moi, je veux me dire que dans mes 30 minutes, s'il y a des épices, on peut faire des choses très simples et très savoureuses. Avec
un œuf, vous avez dit un œuf. Qu'est-ce que vous mettez sur votre œuf alors ?
Voilà, le zaatar, du piment.
Sur un œuf au plat, par exemple, c'est ça ? Oui,
ouais,
tout simplement.
Ou alors en... Je ne sais pas moi. Des œufs brouillés avec du curcuma.
Ah, ça marche ça ? Œufs brouillés curcuma, ça marche ?
Bon, ouais.
C'est vrai ? Vous avez déjà essayé, Mélanie ?
Bah non, jamais, mais on en prend des idées aujourd'hui.
Moi, j'ai bien écouté la recette de pâtes là, tout à l'heure, c'est génial.
Avec le zaatar et le citron. Voilà. Ouais.
Est-ce que vous avez d'autres recettes de cuisine ? Justement, je crois que vous en avez sur votre compte Insta. Et vous donnez des petits conseils, par exemple, pour donner du caractère à un plateau de fromage. Alors là, je mets quoi dessus ?
On parle du paprika fumé, vous allez prendre un petit chèvre frais, vous allez le rouler dans le paprika fumé, hop, vous posez sur le plateau, ça va vous pimper un petit peu votre plateau de fromage et le côté fumé du paprika sur du chèvre, c'est vraiment incroyable.
J'ai une question sur le paprika justement, parce que dans ma cuisine, j'ai les deux, j'ai un paprika où il n'y a rien écrit de spécial, c'est un paprika, et puis j'ai un paprika fumé, ça va être quoi la différence entre les deux ? Alors j'ai compris que l'un était fumé, pas l'autre, mais en cuisine, on les manie de la même manière, qu'est-ce qui va être différent au niveau du goût vraiment ?
Le paprika normal, c'est du paprika doux, le paprika fumé, c'est
il pique
un paprika
un peu plus. Non,
du tout. En fait, le doux va avoir ses notes de piment doux, non fumé, et le paprika fumé est fumé au chêne, donc qui va donner un côté un peu plus chorizo.
Il a la mode de le fumer en ce moment, j'ai l'impression.
A du poivre, du sel, tout ce qui est fumé, c'est délicieux.
Quand on achète ces épices, vous conseillez-vous de les conserver rapidement ? Vous avez dit quoi ? 1 an pour les poudres ? Non, c'est pas ça.
Idéalement, ouais. 1 an pour les poudres et 2 ans pour les graines.
C'est ça, c'est pas et plus. C'est donc les règles à respecter. Alors justement, allez-y, Julia.
Ouais, on va parler conservation, c'est important ça. Et nous allons accueillir maintenant par téléphone un expert de l'hygiène, le microbiologiste, le docteur Christophe Mercier. Bonjour.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie, bonjour Marie-Lou, enchantée d'être avec vous.
On pense à tort, docteur, que les épices et généralement tous les aliments secs ont moins de chances de pourrir, mais ce n'est pas le cas, il y a des risques, vous dites, quand on garde des épices moulues trop longtemps dans nos placards, c'est bien ça ?
Absolument. Alors, je ne suis pas docteur, je suis scientifique, je suis microbiologiste.
Je peux vous appeler professeur ?
Si vous voulez. Grand Manitou d'hygiène, si vous voulez. Soyons simples entre nous. Okay. En fait, nos épices, pour être plus sérieux, nos épices, en fait, elles sont. Il faut faire la différence, comme le disait Marie-Lou, entre les épices qui sont moulues et celles qui sont entières. Celles qui sont entières ne posent aucun problème. On va les moudre au fur et à mesure. Les graines de poivre qu'on va pouvoir moudre dans le poivrier au fur et à mesure, tout va bien. La problématique que l'on va avoir, c'est nos épices qui sont moulues. Mmh. Alors, ce n'est pas seulement les épices, c'est tout ce qui va être en poudre. La farine, le cacao en poudre, le chocolat du petit déjeuner, le café en poudre, la chicorée en poudre. Tous ces aliments-là, eh bien, ils vont nous poser un problème de conservation. La raison est simple, c'est que dedans, on pense que c'est sec et que ça ne craint rien. Et dans la réalité, eh bien, en fait, dans ces épices, on a des petits champignons microscopiques qu'on appelle des moisissures.
Ouais, mais si c'est très petit, on peut les manger, non?
Ah oui, vous verrez, si on mange un staphylocoque doré, c'est une bactérie, c'est très petit, je ne vous conseille pas de la manger.
Ah,
et donc, dans ces poudres, en fait, d'abord, pourquoi est-ce que les fabricants majoritairement les vendent en poudre? Il faut savoir que les industriels les vendent en poudre parce que si elles étaient entières, elles seraient impossibles à vendre parce qu'il y a trop de contaminants, notamment d'insectes écrasés, de petites traces de crottes de rats. Donc, c'est-à-dire de contaminants. La réglementation européenne permet 5% de contaminants dans les épices en poudre.
Vous prendriez bien un petit supplément
de
crotte de rat.
Jamais rien de moulu de ma vie. Hein.
Mais Christophe, comment on sait justement que je sais pas, mon curcuma moulu là que j'ai dans mon placard depuis 2 ans, il y a des crottes, enfin pas des crottes de rat, mais
il
y a des petits champignons dedans.
Est-ce que je sais pas,
mais quand je le cuis, ça va partir, non, tout ça?
Ah non, pas du tout. Alors en fait, plusieurs éléments importants. Il y a une façon de savoir si nos épices sont envahies par les moisissures microscopiques. D'abord, oui. Les moisissures, pour beaucoup, elles aiment l'oxygène. Donc, dans votre petit pot d'épices, plus le niveau baisse, plus il y a d'oxygène dedans.
Bien sûr. Mm-hmm.
Et plus vous avez un risque, à un moment donné, que l'épice prenne en masse. Vous avez déjà vu votre pot, là, avec les épices qui sont bien, bien compactées?
Oui.
Ben là, ça veut dire, en fait, que vous avez des milliards de racines d'aspergillus, c'est-à-dire de moisissures, qui ont pris l'épice en masse. Alors, il ne faut surtout pas la secouer, mettre une petite cuillère pour la décompacter, continuer à l'utiliser. Parce que là, ça veut dire que votre épice est hyper contaminée. Et je sens là, à ce moment-là, nos auditeurs qui sont en train de vite aller dans leur placard et de dire, mais en fait, j'ai des épices qui sont complètement compactées, il faut que je les jette.
Mais bien sûr, il faut les jeter et en racheter d'autres.
Parce que vous allez faire un sniff de moisissure et ça, c'est très mauvais à la santé.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous n'êtes pas docteur, mais quand même, vous prenez soin de notre santé. Merci Christophe Mercier pour vos conseils sur Europe 1. Alors, Marie-Lou, on va continuer avec vos idées de recettes agrémentées d'épices. Apparemment, même dans les desserts, on peut en abuser. Vous avez, je crois, une tarte aux pommes avec de la coriandre qui marche très bien.
Ah ouais, la pomme et les épices fonctionnent très bien. Donc la graine de coriandre, la graine de cardamome verte aussi fonctionne très très bien. Parfois, on imagine une épice sur du salé, mais on peut très bien aller sur le sucré et pas que la vanille.
C'est vrai, puis moi je mettais de la cannelle avec la pomme, j'avais pas trop d'idées, mais j'avais coriandre moulu, je vais essayer.
Ouais. Je crois que vous avez une petite fille, elle a quel âge?
Elle a 2 ans et demi.
Mais vous éduquez son palais aux épices, comment vous faites?
Peut-être qu'ils sont petits, même avec la diversification alimentaire, l'épicer tout de suite, c'est pas dangereux pour eux?
Non, au contraire, moi je trouve que c'est une très belle piste. La première année, ils ne peuvent pas consommer de sel, donc dans les purées, on peut très bien ajouter au fur et à mesure une épice. Du paprika doux, de la coriandre,
même
du cumin.
Même tout petit.
Ah bah tout petit, moi, dès toute petite, Alban, ma fille, je lui ai fait consommer du sésame, de la graine de moutarde, pour aussi éviter le côté allergène, les possibilités d'allergie.
Non, un biberon au piment d'Espelette, c'est excellent. Hein.
Elle mange un petit peu de piment, elle aime bien ça. Non, je pense qu'on peut initier très tôt.
Bon, très bien.
Eh bien, merci beaucoup Marie-Lou d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1 pour nous aider à mieux appréhender les épices, à mieux les choisir et à bien les conserver. C'était très clair, on va mettre tout ça en pratique au plus vite. Merci encore. On passe à quoi à présent, Mélanie?
Les pâtes, c'est avec quoi, Julia?
Attendez, Zlatan, j'allais dire. Non, Zlatan. Zlatan, c'est un jour de foot.
Allez, les bienfaiteurs d'Europe 1 vont nous rejoindre. Jérémy Combe, notre spécialiste du savoir-vivre, va partager avec nous ses astuces pour rabrouer avec élégance et politesse les gens qui nous agacent. Ce sera utile. Et puis, avec Philippine Darblay, on va voir pourquoi le charbon végétal fait de plus en plus éruption dans nos assiettes. Un très chouette programme encore, c'est dans un instant, et c'est sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
On sera de retour très vite dans Bienfait pour vous sur Europe 1 avec les conseils très pratiques de nos bienfaiteurs. Mais pour le moment, on vous propose déjà un peu de musique avec ce titre iconique de Céline Dion. C'est son anniversaire aujourd'hui. Pour que tu m'aimes encore sur Europe 1.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci.
Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, un peu de musique. C'était la magnifique chanteuse Céline Dion sur Europe 1. Alors elle, c'est le Canada et plus précisément le Québec pour ses origines. Mais il y en a un autre qui s'intéresse aux racines des gens, c'est Stéphane Bern. Chaque jour sur Europe 1 avec sa bande, il nous raconte l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui, évidemment, ont un point commun. Alors aujourd'hui, il va s'intéresser à celles qui sont tombées amoureuses de leur élève. Donc rendez-vous à 16h sur Europe 1 pour écouter les destins et les petits secrets qui relient Simone de Beauvoir, Gabriel Russier et Marie-Kay Le Tourneau. Rendez-vous dès 16h avec Stéphane Bern sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi et on est maintenant bien entouré puisque les bienfaiteurs d'Europe 1 nous ont rejoints. Philippine Darblay, bonjour.
Bonjour.
Alors tout à l'heure, on va découvrir pourquoi le charbon végétal s'invite partout dans nos assiettes.
Exactement,
c'est ça ?
Tout est noir, les boissons sont noires, nos lattés du matin sont noirs, nos sandwichs sont noirs et on va comprendre.
Quel est
peu.
L'intérêt quoi ? C'est
et
ça, on veut savoir.
Et ben on va le savoir ensemble juste après.
Eh bien merci Philippine pour ce super teasing. On revient vers vous dans un instant, mais juste avant, il y en a un autre qui a de bons conseil à nous donner, c'est Jérémy Combe. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous proposez une chronique ras-le-bol. Hein. Vous allez nous parler des personnes en retard, trop parfumées ou encore moqueuses.
Ah, tout cela nous agace bien, ouais, c'est vrai.
Effectivement, parce qu'il y a quelques situations ou attitudes qui dans la vie énervent les autres et c'est je vrai. Pense qu'il faut savoir les maîtriser pour ne pas déranger ou être dérangeant.
Oui. Ah, je suis ravie qu'elle ait cité les retardataires en premier. Moi, les gens en retard, je ne supporte pas. Les gens en retard à un spectacle, par exemple, c'est affreux ça.
Là. Alors ça, c'est du vécu. On a tous vécu cette situation, vous savez, où vous arrivez à l'heure au cinéma,
je suis bien
au théâtre,
installé,
et
tranquille.
Évidemment, il y a toujours, passez-moi l'expression, le relou,
voilà.
qui arrive le dernier, ça commence, et bien sûr, il est au milieu du rang.
Voilà, donc il faut se lever.
Il faut se lever, exactement.
Pénible,
alors, vous qui nous écoutez, si vous êtes en retard...
Rentrez chez vous.
C'est presque ça, c'est presque ça. Eh bien, il faut que vous preniez le parti de rester debout au fond de la salle, en attendant par exemple qu'il y ait l'entracte,
exactement.
Ou alors de prendre un strapontin, mais... Ne dérangez pas tout le rang. Mais il y en a, et j'en connais, qui ne peuvent pas supporter d'avoir acheté cette place bien située et qui vont vouloir prendre ta place. Eh bien, vous savez que si jamais c'est le cas...
Un croche-patte.
Mais surtout, vous ne devez pas regarder les personnes qui sont sur scène. Vous allez tourner dos à la scène et c'est face aux personnes que vous dérangez que vous allez regarder. Est-ce que vous comprenez ?
Pour voir à quel point vous gênez, quoi, c'est ça ?
Non, c'est surtout que si les comédiens sont sur scène, il ne faudrait pas que votre regard puisse être déstabilisé.
Ah, ouais.
Donc, on ne fixe pas les comédiens.
Oui, parce qu'en général, ils sont tout droits. Ils vous marchent sur le pied, puis ils regardent la scène.
Exactement.
Dire, oui.
On regarde les personnes qui se lèvent. Mm. Et si vous vous levez, je vous en supplie, ça m'est déjà arrivé, ne faites pas de réflexion à la personne qui est en retard.
Ah oui ?
Bah oui, parce que ça va, on ne va pas commencer non plus à faire une espèce de...
D'esclandre, de
conversation de café.
Alors,
et la galanterie veut que s'il y ait un homme et une femme, c'est l'homme qui passe en premier pour déranger.
Prendre les coups.
Exactement, exactement.
Mais attendez, la situation peut aussi se passer lors d'un spectacle, mais dans la vie de tous les jours aussi. Vous vouliez parler justement de la manière de se parfumer.
Bon, vous allez dans les trucs intimes là aujourd'hui.
Oui,
hein.
Aujourd'hui on est un peu... Je me comprends. Oui, il y a beaucoup de gens qui mettent trop de parfum en pensant qu'on ne va pas les sentir. Mais c'est insupportable. Selon les règles de l'étiquette, c'est très désagréable de mettre trop de parfum. Il existe même une notion appelée le cercle du parfum.
Oh,
attention,
qu'est-ce que c'est
que ça ? Hein. C'est un cercle. Au-delà duquel les personnes environnantes ne devraient pas sentir notre parfum.
Ah, c'est génial.
Son rayon, approximativement, ça ne doit pas dépasser la longueur de votre bras.
Ah, mais donc le matin, je peux demander par exemple à mon mari de se mettre à un mètre et s'il ne me sent pas, c'est bien.
Et exactement. On met quelques gouttes de parfum.
Bah,
c'est ça, c'est pour ça
Philippine,
qu'on en met
Philippine.
Trop.
J'ai une question. Apparemment, il y a des parfums qui ont des sillages, donc on imagine bien, ça poursuit, qui sont très très forts. On ne va pas citer de marque, etc. Mais
connais.
On sait très bien qu'il y a depuis 20 ans les mêmes parfums qui circulent. Comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve à côté de quelqu'un comme ça ?
Chalimard, vous voulez dire ?
Non mais il y a des parfums qui sont quand même très envoûtants, très prégnants. Et bien si vous les connaissez bien, disons, aujourd'hui t'as pas lésiné sur la quantité. Normalement on met quelques gouttes de parfum. Et là je fais une dédicace spéciale à ma mère si elle nous écoute.
Bonjour maman.
Elle en met trop.
Maman, elle met trop de parfum. Et surtout quand on part en voyage.
Oh.
Et quelqu'un qui se parfume trop dans une voiture, ça peut rendre malade. Vous
bien
savez,
sûr,
c'est comme les lys, ces fleurs qui sont trop parfumées. Parfois, c'est envoûtant et ça peut être dérangeant.
Bon, en même temps, si vous faites ça depuis des années, maman de Jérémy Combe, continuez. Après tout, il va s'adapter. Hein. Pour terminer, vous vouliez, Jérémy, attirer notre attention sur les moqueries. Vous n'êtes pas le dernier pourtant. Vous aimez bien vous moquer, quand même.
Non, ça va. Se moquer d'une personne, ça peut être sympa. Mais si jamais on sent que la personne en face de nous n'a pas vraiment le sens de l'humour, on on lève un peu le pied sur la pédale.
On y va mollo. Hein,
on y va mollo. Et surtout, quand on se moque de quelqu'un, il faut aussi pratiquer l'autodérision. Oui. Ça fait davantage passer la situation. Et par exemple, une autre petite situation, si vous êtes mal à l'aise face à des inconnus, eh bien, il faut rester pondéré dans vos propos. Vous voyez, il faut être ni trop modeste, ni trop fanfaron.
Bien sûr.
Il faut pas en faire. Dans ce genre d'attitude, ça, parfois, ça peut être mal interprété. Vous voyez, je vous fais une petite blague ou un petit mot. Eh bien, ça peut devenir très lourd et la personne se dit, mais pour qui il se prend?
Et parfois, les gens sont timides et il ne faut pas leur poser aussi, vous savez, des questions un peu trop directes.
Exactement.
Genre, ça s'est bien passé ton divorce?
Oh, voilà. Ouais, voilà. Idée. Donc, ça, c'est pareil. Être trop direct parce qu'on croit qu'on va être sympa, on s'intéresse à l'autre. Non, il faut, pareil, il faut avoir une attitude un peu plus timide. Et parce que parfois, on peut être mis à l'écart quand on est trop direct. Donc, il faut se décontracter dans toutes les situations et rester mesuré.
Et ce qu'on n'oublie pas, comme toujours,
c'est que les bonnes manières, c'est pas obligatoire, mais c'est bon à savoir.
Merci Jérémy, vos conseils vont nous servir, c'est certain. Allez, on repasse même un petit peu en cuisine, il est bientôt midi, ça tombe bien, on va parler de tendances culinaires et de couleurs maintenant avec Philippine, car après le matcha qui colore nos desserts et nos boissons en vert, la betterave qui colore en rose, ça on connaît, place désormais au charbon végétal qui les pigmente d'un noir profond.
Bah oui, en fait c'est une très grosse tendance qu'on voit depuis quelques années, qui consiste à mettre du charbon végétal. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, si ce n'est déjà pris. En fait, c'est un résidu de combustion de matière végétale qui a comme ça une couleur bien noire. Et on le parsème dans les choses à manger pour les colorer. Alors ça démarre par exemple avec du pain. C'est très beau, ça donne des miches très noires. Là par exemple, j'ai une baguette de chez Utopie. Vous voyez, c'est noir dedans.
C'est vraiment noir.
Dehors.
Elle est belle cette baguette.
C'est graphique.
Si on peut la goûter parce que je suis curieuse.
Moi, je vais goûter au pain noir.
Ouais. Bah, justement, pour parler du goût, ça n'altère pas le goût. Alors voilà, il y a très légèrement.
Alors, ça a vraiment la texture du pain normal.
Ouais,
hein,
on va dire. Le goût est le même.
Le goût est le même. Hein. Il peut y avoir un tout petit croquant en fin de bouche, mais enfin, c'est vraiment très, très léger.
Et d'accord. Du coup, c'est quoi l'intérêt hein?
Et bien, l'intérêt, en tout cas, en cuisine.
Joli niveau couleur. Même.
C'est vrai que dans la cuisine, c'est surtout esthétique. Mmh. Le d'accord. but, c'est aussi de changer un petit peu les habitudes. Mais alors, pour en revenir à Utopie, qui est cette boulangerie, c'est une des premières en France à l'avoir proposée. Et ça a été vraiment un succès énorme, notamment parce que la baguette, en fait, souvent, on le fait dans des gros pains ronds de campagne. Et ça a été parmi les premiers à le proposer dans une baguette. Et la baguette, évidemment, on le sait, c'est de la grande conso. C'est sur toutes les tables. Et les gens sont revenus en demandant « Mais est-ce que vous êtes sûr que votre pain n'est pas brûlé? Est-ce que ce n'est pas bizarre ?» Et ils sont tous, ils ont tous été ravis à l'ouverture. Les
enfants, elle est délicieuse, cette baguette, en tout cas.
Et c'est surtout très beau. Imaginez un coup de crème fouettée par-dessus.
Ah oui, on peut faire des trucs assez sympas, même en cuisine, j'imagine, avec.
Exactement. Et surtout, ça se décline à l'infini. Hein. Toujours de chez Utopie, là, par exemple, j'ai un roulé au sésame noir, qui est comme un escargot.
Julien voudrait le voir de plus près. Vraiment, c'est juste pour le voir. C'est ça.
Comme un pain au raisin.
C'est très beau. Hein.
C'est un noir.
C'est une viennoiserie, c'est ça?
C'est une viennoiserie, tout à fait. Ils font aussi des pâtisseries. Donc là, on a des pâtisseries au citron vert et sésame noir et charbon. On dirait comme une couche de velours noir par-dessus. Honnêtement, c'est hyper graphique. Et ça existe même
c'est
en
bon,
salé.
Roulé, là.
C'est bon tout ça?
Oui, hein. C'est dommage, il n'y a pas de fourchette.
Est-ce que quelqu'un a envie de saler là? Parce que là, j'ai par exemple des sandwichs de la boulangerie The French Bastard qui sont comme des petits ballons de rugby hyper garnis de poulet.
On dirait des petits burgers noirs en fait.
Exactement,
c'est ça,
on dirait comme des petits burgers noirs, soit dinde et cheddar, enfin hyper gourmand, c'est très très beau.
Je peux manger?
Bon, au goût, c'est très bon, nous on valide en tout cas, et en plus, c'est très joli. Je crois qu'on trouve également, Philippine, des boissons au charbon végétal, c'est ça, vous nous en avez amené.
Exactement, j'en ai amené, ça se trouve dans les boissons. Alors c'est vrai qu'en cuisine, comme vous l'avez mentionné, c'est plutôt d'esthétique. Autant dans les boissons, c'est un peu plus pour les bienfaits. Par exemple, là, on a un latté au charbon qui aurait été créé par la nutritionniste anglaise Jodie Brandman. En tout cas, en France, c'est l'enseigne végane qui s'appelle Wild and the Moon qui a vraiment été les premiers à nous faire boire ces drôles de boissons un peu mystérieuses. Voilà. Et justement, là, j'ai deux recettes phares de chez Wild and the Moon.
En gros, on en a une. Enfin, je ne sais pas le goût, j'ai pas goûté, mais qui ressemble un peu à du ciment, du lait, je sais pas, c'est gris blanc, on va
exactement.
Dire. Ah, ça a l'air pâteux comme ça, mais je pense que c'est pas le cas.
Et ça se passe bien.
Et une autre qui est toute noire, en
exactement.
Fait.
Exactement.
Hein,
alors, celle qui est toute noire, en fait, c'est comme une limonade. Donc, il y a du sirop d'érable, du vinaigre
amande,
de cidre.
Date, ça doit être bon, ça.
Exactement. Ça, c'est la version latte qui est un peu plus gourmande. En tout cas, si vous avez fait un petit peu la fête, un petit peu trop bu, etc., et ben là, cette limonade, elle est absolument parfaite.
On va la garder au cas
c'est
où.
C'est pour le ballonnement, c'est pour les ballonnements, le charbon.
Ah, c'est pour vous, donc
non,
ça.
C'est pas ballonné, mais.
Parce qu'à l'origine, oui, c'est ça, le charbon, c'était contre les ballonnements.
Mais c'est vrai que, en fait, c'est une bonne vieille recette de grand-mère.
C'est pour ça
que
Julia la connaît. Hein.
Je vous dis, je ne suis pas ballonnée.
Ni grand-mère.
Et Romain.
Alors, Pour la petite histoire, le charbon a la capacité de fixer tout ce qui est toxines et gaz sur sa paroi et donc ça nous permet de les éliminer. En fait, Émilie Garel, qui est elle psychonutritionniste et praticienne du réseau Médoucine, rappelle que c'est la poudre miracle du système digestif selon elle, hein, d'ailleurs qu'on ne valorise pas assez. Et elle nous dit même que c'était utilisé déjà à l'époque de l'Égypte ancienne, c'est dire, hein, ça dépasse quand même très largement nos grands-mères, comme antipoison pour ses mêmes propriétés, pour ses propriétés justement de fixation. Voilà.
Bah vous nous avez conquis.
Merci.
Franchement, on est convaincus. Allez-y,
Jérémy,
avec
également.
La bouche pleine, on vous écoute.
Vous l'avez compris, ce magazine est fini. Aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bien sûr demain à la même heure, dès 11h, pour parler de quoi, Mélanie ?
Allez, avalez votre bouchée. Un sujet demain, un sujet qui fâche parfois, mais qui est très concernant. Que ce soit après 5, 10 ou peut-être 30 ans de vie commune, traverser un divorce n'est jamais une chose facile. Alors, dans l'émission, on va parler de l'impact psychologique, parfois, que peut avoir cette épreuve. On tentera de voir comment l'aborder de la façon la plus sereine possible.
Mais maintenant, nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Julia.
Europe 1 Midi arrive, quel est le programme ?
Dans Europe 1 Midi, beaucoup de sujets comme tous les jours. On va parler de la réforme des retraites avec le député Rassemblement National, Michael Taverne, qui sera avec nous. On va parler également du plan eau qui est présenté aujourd'hui par le président de la République. Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts, à moins consommer d'eau ? Peut-être que le prix de l'eau va augmenter d'ailleurs pour qu'on évite de la gâcher. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous appelez le 39-21. Et puis on va parler du salaire d'Mbappé. 6 millions d'euros chaque mois. Est-ce que c'est trop ou pas ? On va en parler. Vous appelez le 39-21. Non, Mélanie, vous dites oh, non, ça va.
Oh, bah j'aimerais bien les avoir. C'est ce que je me disais.
Mariez-vous avec Kylian.
Mariez-vous avec Kylian. C'est un bon conseil,
bien
de Julia.
Sûr. Pour l'avenir, un voilà. Avenir radieux.
Voilà le programme d'Europe 1.
Merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.